Salut à tous, chers ULBistes, chers vieux cons et vieilles connes. Vous écoutez le troisième épisode de C'était mieux avant, un podcast qui veut vous en apprendre plus sur l'histoire de Solvay et ses initiatives étudiantes, cercles, bureaux, guildes et toutes les autres. Aujourd'hui, on vous parle des premiers folklores à l'ULB, des sociétés, des cercles et des ordres. Avec votre soutien, on en fera encore plein d'autres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça nous aide énormément. Bonne écoute! C'était mieux avant, et on va vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Gary Mizrahi, et je suis en compagnie de Pierre Brancard.
Bonsoir.
Et de Mathias Roulens.
Salut.
Alors, aujourd'hui, on va vous parler du folklore avant 1914, avant la Première Guerre. On va passer en revue les premières sociétés, les premiers cercles, la Grande Révolution de 1884, et de l'apparition des cercles comme on connaît aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à Peter Brancard, on va, embrayer sur la différence entre un cercle, une société et un ordre. Donc Mathias
Oui, c'est très important de comprendre la différence pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette grande révolution de 1884. Alors, le cercle, eh bien, c'est le cercle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une association qui est ouverte à tout le monde, qui n'est pas discrète du tout, qui fait des événements pour tout le monde, pour le public, etc. La société, elle va se distinguer du fait qu'il y a certains rituels à l'entrée. Donc, n'entre pas qui veut, c'est plus un système de cooptation, mais sans cette volonté de discrétion qu'ont les ordres. C'est-à-dire que les ordres, eux, n'entrent pas qui veut, et en plus, ils veulent rester majoritairement discrets et ne pas être connus du grand public.
Alors, peut-être que je connais un petit peu juste ça en surface, mais est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des sociétés ?
Les sociétés en Belgique, ou en tout cas à Bruxelles, c'est plus la forme la plus populaire et de loin. Ce sont les cercles qui ont pris tout le paysage. Énormément d'ordres évoluent encore dans les lieux sombres de notre campus. Mais les sociétés, c'est un modèle de rassemblement étudiant qu'on voit plus en Suisse, en Allemagne ou en Angleterre. Et c'est un modèle qui n'a pas spécialement été adopté après 1914, justement, parmi les étudiants de l'Université de Bruxelles.
Donc, pour faire court, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, ou en tout cas pas à ma connaissance. Il y a peut-être certaines associations comme la Société du Grand Clisopompe qui rassemble des anciens et qui permet de revivre un peu cet aspect-là, mais ça n'a plus l'importance que ça a pu avoir, comme on va en parler, avant 1914.
Ça va. Maintenant que la distinction elle est faite, je te propose de commencer par les premières sociétés.
Effectivement, donc on a dit qu'il y avait un avant et un après 1884, c'est une date arbitraire, mais c'est vraiment le moment où les sociétés vont perdre en influence et les étudiants se rassembler davantage sous les formes de cercles qu'on connaît aujourd'hui, Polytech, Solvay après, etc. Avant ça, les premiers regroupements étudiants sont d'abord des regroupements d'anciens, donc on a l'UAE qui apparaît en 1843 et qui permet de rassembler un peu les alumni sortants et qui veulent continuer à guindailler ou apporter leur soutien. Il y a le cercle des étudiants libéraux, qui est un des plus vieux cercles d'université, même s'il va apparaître et disparaître et renaître régulièrement pendant toute cette période. C'est dès la première année, hein, presque 1835-1836, puisqu'ils répondent, ils sont en écho aux ambitions libérales de l'Université libre de Bruxelles et de Pierre Theodor Wragen, qui fondera le Parti libéral quelques années après. Et enfin, le Cercle des Flamands, qui est la troisième grosse association à ce moment-là, en 1856, qui va déjà, une sorte de régionale avant l'heure, pour rassembler les étudiants d'origine flamande qui n'ont pas d'université dans leur langue à ce moment-là, puisque même Gand est une université dont l'enseignement est prodigué en français.
On sait que la majorité du public de l'ULB, c'est un public bourgeois libéral. Est-ce que les Flamands de naissance représentaient une grande partie des étudiants de l'ULB ?
C'est difficile à dire, j'ai pas les chiffres exacts, il y a sûrement plus d'informés que moi là-dessus, mais le cercle des Flamands, qui va changer de très nombreuses fois de nom, Hintal, hein, Hintvrehet, c'est leur slogan, qui va changer de nom aussi, la Brussels Studentengenootschap, j'espère ne pas avoir écorché, qu'on connaît encore aujourd'hui, la VUB, elle a été continue dans son activité, et presque ininterrompue depuis ces temps-là, donc il faut avoir tout de même un certain approvisionnement en étudiants flamands pour maintenir le bazar, et ça a été aussi une société particulièrement active, donc ce n'est pas, ils n'ont pas été dormants et subsisté en barbotant.
Ça va, mais tu me coupes si je vais un petit peu trop vite, parce que moi je ne me connais pas du tout sur ce sujet-là. À quel moment arrivent les premiers cercles ?
Alors, les premiers cercles, c'est un peu plus tard, c'est en 1884, qui est la date un peu la plus connue, puisque c'est l'apparition du cercle le plus énorme de notre campus. Ils le répètent suffisamment partout, c'est leur date de fondation incontestée et incontestable. C'est évidemment le cercle polytechnique.
T'es en train de me dire que cette révolution dont tu me parles depuis le début de cette journée-là, c'est juste la création du cercle Polytech?
Non, bien sûr que non. À ce moment-là apparaissent déjà les premières sociétés qui veulent rassembler les étudiants. Donc, il y a la Société Générale des Étudiants qui va vite, pardon, la Société des Étudiants qui va devenir l'Association Générale des Étudiants ou la Fondation des cercles étudiants, qui vont déjà tenter de rassembler un peu comme le modèle ACE qu'on connaît aujourd'hui, les différents cercles qui commencent à apparaître, qui vont parfois avoir une seule année d'existence et s'effondrer. Et effectivement, en 1886, la première AG qui va tenir un peu la route fait son apparition, et avec elle, tous les cercles dont le velours est présent encore sur la paix, donc les cercles un peu fondateurs, Polytech, droit, médecine, sciences, et un peu après, Solvay.
Alors, ah ben,
Est-ce que l'apparition donc de Polytech en 1884, c'est un rapport avec le fait que ce soit le 50e anniversaire de l'ULB, ou c'est une totale coïncidence?
c'est difficile à dire. En 1884, on a parlé pour l'épisode sur la Saint-Voragun, c'est les fêtes jubilaires de l'université, donc c'est aussi les premières évocations de la Saint-Voragun. Il y a peut-être eu à ce moment-là parmi les étudiants une volonté accrue de se rassembler, de célébrer, d'organiser des choses ensemble. Est-ce que ça a suscité l'apparition du cercle polytechnique? Difficile à dire. On a des traces selon certains journaux, peut-être on parlera des journaux juste après, d'un autre cercle qui aurait été antérieur à ce moment-là au cercle polytechnique, qui est assez inattendu à ce poste aussi, à cette date-ci, pardon, le cercle de pharmacie, qui, selon les sources, est né en 1882, ou en 1884, ou encore en 1886, sous l'égide, à ce moment-là, celui qui a vraiment lancé le cercle, un certain Bonichon, et ce n'est pas une blague. Ça me paraît important à caser, que le cercle pharmacie, encore aujourd'hui, se souvienne que leur fondateur s'appelle Bonichon.
Donc concrètement, Polytech et Pharma se bataillent un petit peu la première place, quoi.
Ils peuvent se disputer effectivement l'ancienneté, mais il faut rendre honneur aux polytechniciens de la constance de leur activité et de leur présence chaque année à travers toutes les publications d'étudiantes qu'on peut y retrouver. On sait qu'ils ont été actifs chaque année depuis, ce qui n'est pas forcément le cas, ou en tout cas plus difficile à prouver de la part du cercle de pharmacie.
Alors, t'as dit que c'était un peu surprenant que ce soit le cercle de pharmacie, mais moi je trouve que ça n'est pas tant que ça, puisque on sait que l'école de pharmacie, ben, c'est une des premières qui arrive à l'ULB dès 1842, donc elle n'était pas là parmi les quatre premières facultés, mais elle arrive quand même très très tôt à l'ULB.
Effectivement. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand les cercles, donc les cercles les plus anciens et les plus puissants encore maintenant apparaissent, ce sont les cercles qui se rattachent à une faculté. C'est le cercle des sciences en 1890, c'est le cercle de médecine en 1891, c'est le cercle de droit en 1902. Et à partir de ce moment-là, chaque nouvelle école, chaque nouvelle section qui apparaît va un peu produire son cercle. On l'a vu avec le cercle Solvay qui apparaît à peine un an après la fondation de l'école de commerce en 1905, où on peut aussi citer le cercle de criminologie qui va exister quelques années avant d'être absorbé par le cercle de droit.
Ah ok, bah écoute, toutes des nouvelles que bah, je connaissais pas, du coup. J'allais peut-être poser une question, c'est parce que on avait dit dans le premier podcast, je pense, que les cours de médecine existaient avant la fondation de l'ULB, puis ça a été rattaché. Pareil pour la pharma, du coup?
Je ne sais pas, je suppose que l'école de pharmacie ayant été fondée après, elle a dû être développée par des aides externes à l'université et rejoindre la faculté de médecine sans s'y attacher complètement, sinon les cercles de pharmacie et de médecine auraient été mélangés.
Ça va, donc à partir de ce moment-là, toutes les facultés commencent à créer leur cercle sur la même base que celle de Polytech et slash de Pharma, on ne sait pas trop. Et il se passe quoi après?
Mais justement, pour en revenir à ces bases, à ce moment-là, les cercles ont vraiment trois credos qui reviennent quasiment systématiquement. Que ce soit les cercles dont on a parlé, les régionales dont on parlera après, ou même les sociétés qui ont existé avant, il y a vraiment trois principes à ce rassemblement. Le premier, c'est le libre examen, forcément, qui à ce moment-là, pour la première fois, à mon avis, inscrit dans les statuts d'une association par le Cercle Polytechnique pour changer en 1901. Il y a la volonté d'être libéral. Plusieurs associations vont ajouter le nom Cercle libéral des étudiants wallons, etc. Pas au sens politique qu'on l'entend aujourd'hui, mais plus sur les premières idées du libéralisme en Belgique, donc plutôt par laïque.
Et une idée,
Et
pourquoi est-ce que c'est plus comme ça maintenant, en fait? Ou
parce que
aucune, je sais
le mot
pas.
libéral est devenu plus politique et les cercles n'ont pas vocation à se mêler de la politique, je dirais. Je suppose que les différentes guerres et les luttes contre le fascisme ont aussi exacerbé l'envie politique à l'université et réduit cette notion-là.
Et la population à l'ULB n'est plus du tout la même.
Également, et comme on l'a dit au premier podcast, il me semble, les premiers étudiants sont bourgeois et donc généralement libéraux, ce qui n'est plus forcément immédiatement le cas de nos jours. Le dernier credo, on n'en a pas parlé, c'est les cercles sont anticléricaux à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui se retrouve énormément. Le cercle Borin est très connu pour ça, puisque c'est généralement le cercle Borin anticlérical. C'est écrit dans les statuts de certains. Il ne faut pas y voir une haine ou un rejet de la religion catholique en elle-même, mais plus des dogmes et de l'idée de la religion de prendre le pas sur l'enseignement et de contrer ainsi leur principe de libre
Bah,
examen.
ça s'inscrit très très bien dans l'ULB, quoi, du coup. Enfin,
Oui, bien sûr, et c'est quelque chose qui va être repris systématiquement. Le Cercle Solvay, dans un des tout premiers textes qui fait le compte-rendu de sa création, appelle ce qu'on dirait peut-être calotin de nos jours, les clérics cafards. Donc c'est un thème vraiment commun et bon enfant, mais vigilant en fait, parce que les cercles se voient un peu en défenseur de ce libre examen. Et c'est quelque chose qui est déjà hérité du cercle des étudiants libéraux qui existait avant. Mais également de l'UAE qui a ces principes-là dès ses débuts.
L'UALE, elle est devenue quoi actuellement?
L'UAE existe toujours sous le
Hein?
même nom, c'est l'Union des anciens étudiants
Sorry.
qui a des hauts et des bas, mais qui rassemble tout un tas d'écoles, d'associations d'anciens étudiants. Je pense que quelques-uns font défection, je vous laisse deviner lesquels, l'association des ingénieurs issus de l'ULB, mais globalement ça reste la grosse association d'alumni.
Alors, peut-être que tu as encore, ou Mathias, des choses à dire sur ce sujet-là. Donc, si jamais vous voulez revenir encore une fois en arrière, n'hésitez pas à le faire. Mais tu m'as parlé de journaux, là, tantôt.
Les journaux, on va retourner justement un peu en arrière, parce que les premiers rassemblements étudiants, ça se concrétise souvent par l'apparition d'un journal. C'est l'envie de publier, l'envie d'écrire, l'envie de monter des revues artistiques ou littéraires, et ça va être très tôt. La première société étudiante qu'on connaît, ce sont les Adelphes, donc ils ne vont pas tenir très longtemps, mais c'est un peu ce qui est repris comme exemple de la première société étudiante en 1847 à l'ULB. Mais très tôt viendront la société des crocodiles ou encore la société des iguanodons, qui vont laisser plus de traces et surtout plus de matière écrite. L'almanach crocodilien va laisser les premiers exemples de gravures ou de textes qui racontent un peu la vie étudiante, comment on la célèbre, avec des illustrations de guindailles au moyen de clistères, qui sont des seringues utilisées normalement en médecine, mais utilisées à ce coup-là pour boire. Ils sont à cheval sur des tonneaux, etc.
Ouais, alors ces journaux, je pense pas qu'ils avaient vocation à durer dans le temps, puisque quand on regarde un peu leur date de parution, on voit qu'ils dépassent rarement une génération d'étudiants. Et donc on peut supposer que c'est à chaque fois des étudiants faisant partie d'une même société qui écrivent peut-être leur journal entre potes, et une fois qu'ils partent de l'ULB, eh bien le journal va mourir.
Effectivement, les premiers journaux sont illustrés par des étudiants qui vont être vraiment porter le projet. On va penser pour l'almanach des crocodiles, justement, Félicien Rops va être un des auteurs phares qui deviendra un grand artiste belge. Et ces journaux, comme ces sociétés, sont plus un groupement d'amis qui a plus marqué l'ULB. Certainement des centaines qui sont tombés dans l'oubli parce que moins productifs ou moins à vocation de laisser une trace derrière eux.
Alors, parmi ces premiers journaux qui ont commencé à durer, on peut parler de l'almanach de l'Université de Gand.
Ça, c'est vraiment notre première source en tout ce qui concerne la période avant-guerre. Donc, l'almanach est publié par la Société des étudiants libéraux de Gand entre 1885 et 1914 et reprend un peu tout le compte-rendu de l'activité étudiante à Gand, mais également à partir de 1890, à Bruxelles, à Liège, à Gembloux et un peu tous les instituts universitaires du pays. Et c'est notre première source d'histoire, c'est là que sont racontées la fondation du cirque Solvay notamment, et énormément d'anecdotes très riches. On a la trace d'un seul almanach bruxellois en 1891, donc antérieur au cirque Solvay malheureusement, donc il n'est pas fait mention. Mais le premier journal qui va commencer à parler des étudiants de l'ULB de manière régulière et spécifique, c'est l'Écho des étudiants, ou Journal des étudiants, ou l'étudiant libéral. Ils ont fusionné, se sont
Pas mal de noms
scindés,
différents, quoi.
etc. Et eux vont paraître pendant 10-20 ans pour vraiment faire le compte-rendu des activités à la faculté. Et ce qui est très marrant, c'est que la naissance du cercle Solvay est racontée dans ces journaux, et à ce moment-là, celui qui signe tous ces comptes rendus va signer K.Ducé. Et j'ai
Qui
dit,
est
je trouve ça
K.Ducé?
très drôle.
Je trouve ça très drôle, mais il faut savoir que j'ai quand même parcouru ces archives pendant 2 mois avant de comprendre la vanne, puisque je cherchais désespérément qui
Seulement
était
2 mois?
voire plus, je cherchais qui était ce Ducé, parce que je ne me trouvais pas dans les listes de délégués de cercle.
Bah, t'es un champion.
Ouais.
T'as compris maintenant?
Oui, ça va. J'ai suivi.
Au tout début du podcast, Pierre, on a parlé de l'AG. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus et pourquoi est-ce que c'est si important de parler de l'AG avant 1914?
Alors, l'AG, elle va avoir deux dates de fondation, un premier essai en 86 qui va pas tout à fait tenir, et elle va revenir en 1896 pour vraiment accueillir toutes les nouvelles structures. Donc à ce moment-là, on a déjà Polytech, Sciences, Médecine, principalement, et Pharmacie, qui vivote, existe ou n'existe pas selon les années. Et en 1901, il va y avoir un gros changement grâce à son président Albert Devèze. Et les cercles existants vont être incorporés à l'AG sous forme de section. C'est-à-dire que le cercle des sciences va devenir la section des sciences, etc. Ça va permettre aussi la fondation de sections qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire la section de droit, qui sera la section de droit et notariat, ou la section de philosophie, qui apparaît pour la première fois également. Ces sections vont séduire à peu près tous les cercles, sauf un, je vous laisse deviner lequel, le cercle polytechnique, qui va se la jouer cavalier seul, c'est-à-dire que une section polytechnique va effectivement être constituée, mais le cercle polytechnique continue ses activités en parallèle.
C'est des anarchistes, ces gens, j'en ai marre. Ils
Oui,
sont si forts.
mais Solvay va faire exactement pareil à sa fondation.
On s'est bien copiés, nous.
Puisque la section commerciale va rejoindre l'AG, va d'ailleurs être poussée par l'AG à ce moment-là, notamment par la section polytechnique qui va nous assister, mais le cercle commercial va exister pendant les premières années en tout cas, parce qu'après on n'en a plus de traces, je pense qu'on perd la trace en 1908, le cercle commercial va également avoir ses activités en parallèle.
Donc, pour résumer, en 1884, on a le cercle polytechnique, en 1886, on a la première tentative de l'AG, et en 1885, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Pierre?
Il s'est passé quelque chose, puisque c'est la première des régionales en dehors des cercles flamands dont on a déjà parlé, c'est le cercle borrain. Le cercle borrain qu'on a également cité en disant qu'ils étaient farouchement anticléricaux, en tout cas c'était un attribut à leur nom qui était souvent repris. Le cercle des borrains, c'est le premier, mais ce ne sera pas le seul à faire son apparition avant-guerre. Dans ceux dont on peut retrouver une trace encore aujourd'hui, on a la Schimmassienne, qui apparaît en 1890, et la Luxe en 1898. Le cercle des étudiants wallons va un peu agir comme une AG pour ses régionales. Lui, il apparaît dans les années 1895, mais c'est assez flou. Et à ce moment-là, c'est l'explosion. C'est-à-dire qu'on va avoir un cercle Ixellois, Namurois, de Saint-Josse, d'Anvers, les Carolo-Borrains, les Aiguillers. C'est
C'est
vraiment.
limite si on n'a pas des quartiers aussi.
Voilà, ça va défiler. Peu vont tenir le coup. L'entre-deux-guerres va être plus compliqué pour les régionales. Mais comme on l'a dit au premier podcast, après la Deuxième Guerre mondiale, là par contre ça va être le résurgence totale. Et avant ça, le cercle borrain est de loin le plus actif. Il est souvent cité comme un partenaire d'ailleurs pour le cercle Solvay dans les activités, des bals au boudin, des bars, des tonneaux vidés ensemble, etc. Donc on peut résolument penser que c'est le régional le plus actif en tout cas jusqu'en 1914.
Donc là, on nous a dit qu'il y avait des cercles, qu'il y a des régios, il y avait des sociétés, tout ça, mais grosso modo, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là? On sait ce qu'on fait aujourd'hui, mais à l'époque, aucune idée.
Alors, il y a plusieurs événements qui nous sont transmis. Pour les cercles comme Polytechnique ou le cercle commercial qui ont des vocations à des cercles d'études, c'est généralement des voyages, des visites d'entreprise très souvent, jusqu'à une dizaine par an lors des meilleures années. Et ça, c'est l'essentiel de l'activité. L'autre partie importante, c'est pour les sections ou les cercles un peu plus folkloriques, ce sont les guindailles. Et la guindaille se résume à se retrouver dans un bar, généralement un bar qui est approprié pour chaque cercle. Pour le cercle Solvay, on sait que c'est le Café du Luxembourg qui se trouvait rue du Trône.
C'est pas la même chose que ce dont on avait parlé au premier podcast avec les aiglons.
Oui, voilà, c'est vraiment les bars attitrés un peu de chaque cercle, là où se retrouvent le plus souvent les cercles en question. Et notamment au Café du Luxembourg, il y a plusieurs événements qui nous sont transmis, dont la soirée en l'honneur du drapeau. C'est-à-dire que le cercle Solvay vient de faire son drapeau, doit le financer, parce que ça coûte cher, c'est des brocs des mains, c'est de matériel, etc. Et la légende dit que le drapeau a été remboursé en seulement 1 heure grâce aux dons généreux et alcoolisés de nos membres qui se sont mobilisés en masse pour boire à la santé du drapeau.
Bah après, j'ai envie de dire, enfin, tu nous as dit que c'était tous des bourges qui allaient à l'ULB à l'époque, donc ça devait pas être très très compliqué
Et
de rembourser un drapeau.
comme ce sont des bourges, leur autre grande activité, ce sont les balles de toutes les formes. Hein. Il y a les balles à 50 cents qui sont des balles beaucoup plus populaires, mais il y a aussi les grands bals plus fastueux qui rassemblent les professeurs et la petite ou la grande bourgeoisie de Bruxelles. À ce moment-là, les bals ne sont pas forcément organisés par les cercles, ce sont plus les dernières sociétés ou les premiers ordres subsistants qui en parlent.
Oui, j'allais te demander, du coup, ces grands bals. Entre qui veut ou c'était réservé à un certain public?
Alors, tout dépend de l'organisateur. Les grands bals de l'époque, c'est le cercle des nébuleux qui les organise. Le cercle des nébuleux, c'est pas un cercle facultaire, c'est-à-dire qu'il n'entre pas qui veut. Hein. Ils sont 7 ou une dizaine de membres selon les années. Ils naissent en 1886 et s'éteignent dans la Première Guerre mondiale. Et c'est un peu ce qui se rapproche le plus de nos ordres actuels, à la différence que leurs événements sont publics et le bal des nébuleux est le grand bal où il faut être. N'entre pas qui veut. Selon les récits qu'on en a, mais à mon avis c'est plus parodique, c'est voilà réservé au bon public. Ça veut simplement dire que vous devez être un étudiant guindailleur et reconnu.
Donc là, je vais te voler ta petite blague à toi, mais c'est un peu comme le bal Solvay de nos jours, quoi.
Le bal Solvay a exactement le même prestige qu'il y a 100 ans, bien sûr.
Au jeu d'hiver. Allez.
Puisqu'on parlait des nébuleux, c'est, comme j'ai dit, un des premiers ordres qu'on connaît, mais les ordres à ce moment-là vont exploser. C'est-à-dire que ils vont se créer dans toutes les facultés. Toutes les facultés vont un peu avoir leur ordre. Il va y avoir des interfacultaires, etc. Quelques sociétés internationales vont essayer de s'implanter à l'ULB, comme la Stella ou la Fédération Gulolingue, mais sans jamais succès. Un qu'il faut quand même mentionner, sont les Vénusoïdes, qui sont un peu le pendant à Solvay des Ellipsoïdes, qui existent à Polytechnique, et il y a une certaine fraternité entre les deux. Ils naissent en 1906, donc peu après le cercle Solvay, et ont toute une série de légendes et de rites qui sont difficilement connus de nos jours. On sait cependant que leur casquette a porté le velours rouge à cette époque-là, bien loin de notre orange actuel.
Bah, je m'y connais pas vraiment en ordre, comme vous avez pu le voir, je m'y connais pas en grand chose quoi. Mais les ordres avant étaient réservés à des étudiants d'une certaine faculté.
C'est
À chaque fois,
selon.
c'était regroupé parce que maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit nécessairement le cas.
C'est selon. On sait que certains ordres, comme on l'a dit, les ellipsoïdes sont réservés aux étudiants de Polytechnique. Les vénusoïdes, ce sont les étudiants de l'école de commerce. Mais il y a également les prismatiques lumineux, qui sont, à mon avis, uniquement des étudiants en médecine. Et des ordres qui sont ouverts à tous. On citera les gastronomes facétieux, tout est autour de la bouffe qui apparaît en 1904, les nébuleux qui recrutent un peu dans toutes les facultés, mais déjà à cette époque-là, c'est un peu toujours les mêmes facultés qui sont représentées, c'est ce qu'on retrouve également dans nos ordres modernes.
Superbe. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à les grandes marques d'avant 1914, l'apparition de quelque chose ou quoi. Donc,
Peut-être un mot sur les cercles politiques, parce qu'on a beaucoup parlé du cercle des étudiants libéraux qui sera le, des étudiants libéraux, pardon, qui sera le seul à nous parvenir. Mais il y a eu plusieurs tentatives, un cercle socialiste, un cercle des étudiants communistes, un cercle des étudiants pas communistes, pardon, ça c'est un peu après, cercle des étudiants progressistes, etc., qui eux, malheureusement, ne vont pas survivre. Mais il n'y a pas que le cercle des étudiants libéraux qui a tenté de se constituer. Autre groupement qui a commencé à exister avant-guerre et qu'on retrouvera plus tard, ce sont les cercles nationaux, c'est-à-dire les cercles des étudiants polonais, les cercles des étudiants russes, énormément d'étudiants russes à l'ULB à ce temps-là, et qui se rassemblent. Certains ont pu, les deux que j'ai cités, ont pu acquérir un certain poids, mais à nouveau n'ont malheureusement pas tenu. Et la dernière catégorie de cercles qu'on peut retrouver, ce sont les cercles sportifs. Et pourquoi est-ce que je les cite tout particulièrement? Parce que Ernest Solvay a fondé, ou en tout cas a participé en finançant les premiers cercles sportifs, comme le Ligue Universitas 1904, qui va vraiment porter l'activité sportive à l'ULB via lancer des interfacs, etc.
Alors là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le cercle sportif, donc déjà, il n'existe plus. Et donc, du coup, ça a été un peu remplacé par des délégués sport dans les cercles.
Les cercles à ce moment-là, il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont absolument pas la structure de maintenant. Hein. C'est généralement un président, un secrétaire, un trésorier, un porte-drapeau quand il en faut un, mais le reste est beaucoup plus mobile et on n'a pas la trace de qui faisait quoi exactement. Surtout que dans d'autres cercles, par exemple le cercle polytechnique, il n'y a même pas de structure à l'intérieur et ils ont simplement un secrétaire et des membres. Ou au cercle commercial, ce sont uniquement des questeurs. C'est-à-dire un caisseur de première, de deuxième, de troisième, etc. Donc la structure est difficile à établir, mais le Lingua Universitas va effectivement accoucher de plein d'acronymes barbares, ASUB, SNUB, etc., Société Nautique, Société Aéro, de l'aéro nautique. Je sais plus exactement les acronymes, mais il y a les sports plein air, l'athlétisme, qui vont vraiment se manifester, se développer à partir de ce moment-là, et disparaître, à mon avis, un peu après la Seconde Guerre mondiale.
Bah superbe. Est-ce qu'on bouclerait pas là? Quelque chose, enfin quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ou quelque chose à quelqu'un à rajouter?
Je pense qu'on a tout dit pour la partie avant 1914. On voit que l'initiative étudiante, et c'est vraiment sur ça qu'on se concentre dans ce podcast, elle était florissante depuis les débuts. Elle n'est pas facile à explorer parce que les traces écrites qui nous sont parvenues, elles sont pas nombreuses et elles sont très disparates. Il faut attendre une AG qui va éditer régulièrement des journaux sur ses cercles membres pour avoir des comptes rendus précis. Mais elle est merveilleuse, elle est riche, elle est différente et elle vaut tout autant la peine qu'on en parle.
Superbe. Je vais faire un petit rappel juste pour les vieux cons et vieilles connes qui nous écoutent. On a un groupe Facebook qui s'appelle Vieux Cons Solvay. C'est juste avant de clôturer. Allez-y, ça nous ferait plaisir que vous nous donniez votre avis sur le podcast et aussi que vous participez aux discussions qui se passent sous les podcasts en général, les anecdotes et j'en passe. Et sinon, pour moi, on est bon pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une belle journée, une belle soirée et à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.